Vous écoutez RTL.
Première radio de France.
RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous. Bonsoir Sidonie, ça va bien ?
Bonsoir Thomas, je vais très bien.
Vous
salut à vous les curieux. Bah oui, je suis en forme comme tous les soirs. Vous voulez que je vous dise, parfois j'ai des coups de barre quand même, ça arrive. Comme tout le monde.
Bah oui, bien sûr.
Mais qu'est-ce que je peux répondre
vous
à votre question
pas,
si sympathique
pas, vous n'êtes pas une machine. En tout cas, on attend vos réactions au 3210 sur RTL.fr ou sur les réseaux sociaux avec le mot dièse, le hashtag la curiosité.
Je vous ai cherché,
RTL.
Là.
Allez au programme, le goût des marques ou comment les industriels de l'agroalimentaire utilisent nos cinq sens pour nous faire aimer un produit.
Et puis nous découvrirons que dans l'entourage d'Adolf Hitler, il y avait des magiciens, des mages, des gourous complètement fous qui ont nourri l'idéologie nazie.
Tout de suite, homme-femme, mode d'emploi.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
La femme veut toujours changer l'homme. L'homme veut toujours changer de femme.
Je veux être un homme.
Qui saute sur tout ce qui bouge, c'est un donjon. Une femme qui bouge sur tout ce qui saute, c'est une gourmande.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Anne Roumanoff, très inspirée, c'est bon ça, par les différences entre les hommes et les femmes. Quand on pose cette question, on a tous une petite idée de la réponse, mais qu'en disent les scientifiques ? C'est le thème du magazine Science et Vie qui vient de sortir en partenariat avec RTL. Bonsoir Mathieu Villiers.
Oui, bonsoir.
Bienvenue,
bonsoir.
Vous êtes le directeur de la rédaction de Science et Vie, vous êtes un homme.
Jusqu'à preuve du contraire.
Voilà, l'étiez-vous dès la première minute de gestation dans le ventre de votre maman ?
Ah oui, je l'étais, oui.
Ça se définit tout de suite.
Ça se définit tout de suite. On refait un tout petit peu de biologie.
Allons-y.
Rapide.
Ouais.
23 paires de chromosomes, 22 neutres, une sexuée, les messieurs un X, un Y, les dames 2X. À la manière de la fermeture éclair, un peu le sujet, les deux dans les cellules sexuelles se divisent et on se retrouve avec des spermatozoïdes qui sont X ou Y et des ovocytes qui sont X de toute façon. Si c'est un spermatozoïde Y qui vient percuter l'ovocyte X, ça fait un garçon. Si c'est un X, ça fait 2X, ça fait une fille.
D'accord.
Donc on l'est génétiquement dès le départ.
Dès la première minute.
De combien de semaines le pénis et le vagin apparaissent ?
Apparaissent visiblement.
Oui. Oui, dans le ventre.
10-12e semaine à peu près. Alors, les garçons sont un petit peu plus précoces. C'est-à-dire que la machinerie interne chez le garçon se met en route à partir de la 4-5e semaine et ça commence à se voir à l'échographie à 10-11 semaines à peu près.
Le sexe est d'abord de la génétique, c'est une question de chromosomes, c'est ce que vous nous expliquez, XY, c'est ça les chromosomes ?
Ça, c'est le sexe génétique. En général, le sexe génétique détermine le sexe global, il n'y a pas de doute. On est un homme, on est une femme, on est un garçon, on est une fille. Mais c'est un peu plus compliqué que ça.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que tout ça baigne dans les hormones aussi. Ah. Les messieurs fabriquent beaucoup de testostérone, les dames fabriquent des estrogènes. Et il peut y avoir des fois des taux d'hormones qui sont un peu plus élevés que le sexe génétique ne le donnerait à penser. Et on peut se retrouver avec des individus un petit peu bizarres.
C'est-à-dire une femme avec des hormones mâles très importantes.
Absolument,
ou l'inverse, c'est
absolument.
Ça ? D'accord.
Et même sous l'influence de différents facteurs, notamment des facteurs environnementaux dont on parle pas mal, avec des perturbateurs endocriniens, mais aussi pour des raisons génétiques un peu compliquées, on peut se retrouver à avoir, alors là on rentre un petit peu dans la technique génétique, mais on peut très bien imaginer que le spermatozoïde du papa, finalement l'un des gènes a sauté sur l'autre, on se retrouve à avoir tous les attributs sexuels d'un homme par exemple, et puis on a des problèmes de fertilité, alors on regarde ce qui se passe et on découvre qu'on est XX, donc on a
des chromosomes de femme,
pour parler vulgairement, mais on a une chromosomie de femelle.
Ça porte un nom,
c'est l'hermaphrodisme par exemple, qui est rarement total mais qui peut l'être complètement.
Ça touche beaucoup de gens, ça touche du monde. En France,
alors,
par exemple.
L'hermaphrodisme total, c'est-à-dire, on va devoir parler un petit peu technique, mais on a à la fois un pénis, des testicules et tout ce qui caractérise le genre masculin, mais on a aussi un utérus et des ovaires. Il y en a à peu près 500 en France, pense-t-on. Mais après, tout ça se panache. Donc, on est plus ou moins homme, plus ou moins femme. Pas du point de vue génétiquement, mais du point de vue globalement, on a tous un peu de femme et d'homme en nous, dans des proportions qui parfois posent question. Et
est-ce que le taux de testostérone, c'est un critère de masculinité, par exemple, dans des compétitions sportives ?
Absolument. Absolument. Donc, les hommes ont en moyenne à peu près 10 fois plus de testostérone que les femmes.
Ouais.
Dans les compétitions sportives, il y a eu un cas en 2000. 10 ou 11, j'ai oublié le nom de l'athlète en question, qui a été contrôlé avec un taux de testostérone très, très, très supérieur à ce qu'on constate d'ordinaire chez les femmes et qui a été déclassée de la compétition parce qu'on s'est demandé si elle n'avait pas suivi des traitements hormonaux. Mathieu, je sais pas si c'était le cas ou pas.
Mathieu Villiers, le sexe, c'est aussi évidemment sociétal. Dès l'enfance, il y a les jouets, les vêtements, les livres nous font appartenir à un genre particulier. C'est ça aussi, le sexe, déterminé par la société.
Oui, c'est ça aussi. C'est-à-dire que vous me demandiez si moi-même, j'étais déjà un homme dès le moment de la conception. Je vous ai répondu oui, mais j'ai peu de souvenirs de mon enfance d'avant 2-3 ans, comme tout le monde. Mais à ce moment-là, je ne pense pas avoir une conscience aiguë du fait que je suis un garçon ou que vous étiez une fille. Et c'est des choses qui se construisent assez lentement, avec lesquelles l'on... En général, on tombe en affinité, en accord, on se reconnaît comme étant du sexe mâle ou du sexe féminin. Parfois, cette chose ne se passe pas très bien. Et des jeunes garçons, finalement, quand ils découvrent qu'ils sont fondamentalement garçons et qu'ils vont le rester, peuvent le vivre assez mal, comme des jeunes filles peuvent vivre assez mal d'être enfermées dans le corps d'une femme.
Ça, ce sont les transsexuels, en fait.
Ouais, on appelle ça, oui, les transgenres, même.
Absolument.
Précisément, ouais.
Les transgenres, c'est ceux qui passent le pas de cette chose-là, mais on se sent plus ou moins...
Non, alors les transgenres n'ont pas passé le pas, pardon, et les transsexuels ont passé le pas
voilà,
de l'opération.
C'est dans l'autre sens.
C'est ça, c'est dans ce sens-là. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de critères pour définir finalement le sexe. Vous avez dit quoi ? Génétique, hormonal, on a dit sociétal, il y en a d'autres.
Bah, il y a anatomique.
Anatomique, forcément, oui, bien sûr.
Qui est le sexe qu'on donne à la naissance d'un enfant. C'est-à-dire qu'on ne va pas regarder plus loin. Hein. On regarde s'il a les attributs d'un homme ou les attributs d'une femme et on décide que c'est son sexe. Mais il y a effectivement tous ces sexes que vous avez, le génétique dont on a parlé, l'hormonal, l'anatomique, bien évidemment, qui s'impose à l'examen de visu, le sexe psychique, peut-on dire, dont on parlait. Est-ce que moi, je me sens mieux en jouant à la poupée ou au camion? Et est-ce que je vais prendre tous les attributs du sexe qui m'a été donné? Et puis, il y a la question du genre, après, qui a pas mal agité certains mouvements ces derniers temps, qu'on appelle la théorie du genre, ce qui est totalement impropre, parce qu'il n'y a pas de théorie du genre. Il y a des études sur le genre qui sont héritées de travaux de psychiatres américains, qui visaient à regarder si finalement on peut essayer de regarder ce qui relève de l'inné et de l'acquis, et qui a créé un petit peu de confusion, et qui parfois, aujourd'hui, dans certains milieux, est considéré comme une cinquième manière de définir le sexe.
Et quand ils ont grandi, les hommes sont incapables de faire deux choses à la fois. Et les femmes, elles, n'arriveront jamais à lire une carte routière. Des clichés sur les différences hommes-femmes, on en a tous en tête. On les met à l'épreuve de la science dans la curiosité.
La curiosité, vous écoutez RTL.
RTL.
Les femmes, c'est du chinois. Le comprenez-vous, moi pas.
Vous faites peur aux hommes maintenant, mesdames. Pourquoi ? Parce que vous savez exactement ce que vous voulez. Je veux un homme qui m'aime pour qui je suis. Je veux qu'il soit beau, drôle, cultivé, intelligent, soigné, musclé, mais pas trop. Macho, mais pas trop. Attentionné, poli, sensible, délicat. Un gay, quoi.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Il a raison, Tony Cavana. On veut tout ça, mais pas trop. Et voilà. Ce soir, on se passionne pour des questions absolument infinies. On pourrait en parler pendant des siècles, je pense. Les différences entre les hommes et les femmes. Et pour en parler, le magazine Science et Vie, en partenariat avec RTL, sort un numéro spécial qui répond à ces questions. Nous en parlons avec le directeur de la rédaction, Mathieu Villiers. D'ailleurs, on va parler du cerveau. Entre les hommes et les femmes, on a chacun évidemment le même cerveau. Mais le poids, est-ce qu'il est vraiment différent ?
Le poids est différent, oui, mais ça n'a pas une grande importance. Le poids est différent, c'est-à-dire tout est différent en termes de poids, c'est-à-dire la taille, la masse, tout ça est différent. Donc
c'est proportionnel, on va dire.
Il fait 10 à 15% de moins en volume et en poids que celui d'un homme, ce qui n'a aucune conséquence à cela. Le cerveau d'Einstein,
ça n'a pas de conséquence sur l'intelligence, par
petit,
exemple. Ah, le cerveau d'Einstein était
oui,
petit.
Oui, il était tout petit.
Et on a dit il n'y a pas très longtemps dans la curiosité qu'après sa mort, son cerveau avait été autopsié.
Haché même.
Oui, non, mais en lamelles pour essayer de trouver, pour essayer de comprendre. Pourquoi un tel génie, comment un tel génie avait pu voir le jour.
Ce qui est une idée assez bête d'ailleurs. Ouais. Ils n'ont pas trouvé.
Ils n'ont rien trouvé. Donc la taille, le poids du cerveau n'a aucun lien avec l'intelligence.
Absolument aucun lien.
Et quand on fait passer des tests de QI aux hommes et aux femmes, est-ce qu'il y a des résultats similaires ?
Ah, est-ce que les uns ou les autres sont plus intelligents du point de vue du QI ? Ben non, ça change. Strictement
on le savait.
Non, ça ne change rien.
Moins c'est dit.
Alors, Les femmes étaient moins bonnes au test du QI les dernières décennies, et puis elles ont rattrapé les hommes.
Ça veut dire que c'est un rapport avec quoi ? La culture, les études,
oui,
également ?
Ça veut dire que le QI n'est pas un test d'intelligence pur et parfait, c'est un test qui mesure des choses qui ont à voir avec des compétences sociales, sociétales, une ouverture au monde sur lesquelles les femmes ont largement refait leur retard, donc ça ne change strictement rien. Il y a une dernière raison pour laquelle ça ne change rien du tout, c'est que le cerveau, contrairement au petit bébé qui est à peu près fini, qui a un petit cœur, un petit poumon, ses petits pieds, tout bien, la tête, elle n'est pas du tout finie, et le cerveau, c'est un organe qui se développe après la naissance. Il faut à peu près 5 ans pour qu'il y ait un nombre de connexions neuronales qui commencent à structurer l'individu. Donc on voit bien que la dimension culturelle prime sur la dimension anatomique du départ.
Mathieu Villiers, on va s'amuser avec quelques clichés. Je commence par une phrase classique que les femmes prononcent. Les hommes sont incapables de faire deux choses à la fois. Est-ce que c'est scientifiquement prouvé ?
J'espère.
Alors, on a trouvé la trace de cette idée reçue là. Au début des années 80, c'est une étude qui a été faite post-mortem sur une vingtaine d'hommes et de femmes, et ils ont vu que chez les femmes, le faisceau de neurones qui reliait les deux hémisphères était un peu plus épais. Bon, peut-être du soir d'hormones là-dedans. Ils en ont déduit un peu hâtivement que, à ce moment-là, les deux hémisphères pouvaient marcher en même temps, quoi. Ce qui est faux, puisque les scientifiques de l'INSERM au début de ce siècle ont démontré qu'on ne pouvait pas faire deux choses en même temps, ni les hommes ni les femmes.
Oh, mais ce n'est pas qu'une étude scientifique, on est beaucoup de femmes à remarquer que les hommes ne peuvent pas faire deux choses en même temps, Mathieu.
Méfiez-vous, parce que si vous continuez, moi je vais faire pareil avec les clichés sur les femmes après.
Ah bah, j'ai hâte.
On n'est pas obligé de s'intéresser à ce que dit l'autre en permanence non plus, mais non, ce qui est sûr, et ça c'est marrant d'ailleurs, c'est que personne, ni homme ni femme, ne peut faire deux choses en même temps, c'est-à-dire qu'on a besoin de quelques millisecondes pour passer d'une tâche à une autre. Il y a une zone tampon entre les deux hémisphères, ça va tellement vite qu'on a l'impression de faire les deux choses en même temps. Mais si je suis en train de discuter au téléphone et d'écrire quelque chose en même temps, j'ai l'impression de faire les deux choses en même temps, mais en fait je les fais simultanément l'une l'autre. Ça marche pareil pour les dames et pour les messieurs.
Il y a une très bonne pub d'ailleurs, je sais plus pourquoi, qui joue sur ce cliché. C'est un homme qui est dans une conférence téléphonique, manifestement en train de travailler, de faire du business, et puis en fait en bas il y a son gamin qui joue avec des jouets, il doit avoir 2-3 ans, et lui avec les pieds réussit à le faire jouer tout en passant sur le téléphone.
Toc. C'est une femme en fait.
Voilà, non, c'est un homme. Tiens, un cliché sur les femmes. Sont-elles vraiment des pipelettes ?
Oh, mais ça n'a rien à voir, Thomas. En plus, je vous ai raconté ce matin que de toute façon, je parlais plus. Ça fait bien 6 mois que je n'ai pas parlé.
Elle va nous faire la démonstration qu'elle peut tenir le crachoir pendant 2 minutes.
Ben là, alors, je vous laisse et je compte. Et puis,
allez, Mathieu.
On verra la fin. Non, ça n'a pas été prouvé non plus, ça. Non, on n'a pas pu prouver. Il y a une université aux États-Unis qui a fait ça de manière un peu scientifique parce que c'est une psychiatre qui avait écrit un bouquin qui s'appelait Le cerveau féminin. Et qui disait les hommes c'est 7000 mots par jour, les femmes c'est 20 000, mais ça reposait absolument sur rien, c'était des observations. Donc ils ont fait le boulot dans une université américaine et ils sont arrivés exactement au même résultat. Alors peut-être que culturellement les femmes sont un peu plus collaboratives, ont un peu plus une capacité à
aller vers l'autre.
Tout cas avoir une approche un peu collégiale des problèmes. Et peut-être que moi, je n'ai jamais eu l'occasion d'assister à une réunion dans laquelle il n'y avait que des femmes. Je le regrette énormément. Mais il se dit que peut-être que la parole est un peu plus libre et peut-être qu'elle parle davantage.
C'est des scientifiques qui disent ça aussi ou c'est votre expérience ?
Non, c'est des scientifiques qui disent ça.
D'accord. C'est vrai qu'on évoquait l'autre jour, Thomas, la National 7 et vos parents qui se disputaient sur le capot de la DS. Vous savez, vous rappelez.
Il suffit de raconter mon histoire personnelle.
Non, mais vous rappelez avec votre mère qui comprend rien à la carte et votre père qui déplie la carte et qui sait que faire.
C'était un gag. On a tous vécu une scène comme ça. Je ne sais pas si vous l'avez vécu, Mathieu Villiers.
Je suis très gêné parce que c'est pas avec mes parents, c'est avec ma compagne.
C'est elle qui prenait la carte routière et qui ne comprenait rien. C'est aussi un cliché. Les femmes n'arrivent pas à lire une carte routière. Ça
alors
tient ou pas ?
Là, il y a un petit quelque chose un peu bizarre que on a un peu creusé cette histoire. Je ne sais pas très. Alors, il y a un truc très troublant, c'est que oui, apparemment, il y aurait une aptitude masculine un peu plus développée.
Ne soyez pas gêné, Mathieu.
Bah, je le suis un petit peu parce que à se repérer dans l'espace. C'est-à-dire, manifestement. En moyenne, on n'a pas les mêmes stratégies pour se repérer dans l'espace. C'est-à-dire que les femmes auraient manifestement plus tendance à avoir des points fixes et les hommes auraient plutôt tendance à se repérer eux-mêmes dans l'espace et du coup auraient une capacité à spatialiser tout ça qui est un peu plus forte. Alors, ce qui est bizarre, mais alors, je ne sais pas, l'étude, on prend des études sérieuses, mais il en faudrait beaucoup pour attester de ce truc. À un moment du cycle de la femme, le taux d'estrogène tombe plus bas et là, les performances de la femme pour lire les cartes égalent celles des hommes. Alors, je ne sais pas si cette étude a été contestée, si d'autres la confirment, mais il semblerait quand même que les estrogènes, ça ne soit pas terrible pour se repérer dans l'espace.
Moralité, il faut surveiller le cycle de sa femme pour lui confier la carte.
Oh, c'est trop de boulot, fichez-nous la paix, conduisez. Notre questionnaire homme-femme continue, c'est passionnant, on va parler santé dans la curiosité.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme.
Alors on regarde les Fort Boyard, on mangeait tranquille comme ça, ma femme tout d'un coup là, de but en blanc qui me dit « Fernand, j'ai 40 ans et je veux jouir !»
Putain mais c'est pas possible, elle pense qu'à ça. C'est une obstétrique.
La curiosité est un vilain défaut.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Des chevaliers du fiel à Lelouch, Shabbat Abada, un homme et une femme. Un homme et une femme, c'est un thème éternel, fondateur qui inspire les religions, les artistes, les scientifiques depuis toujours. Mais sommes-nous si différents? C'est la question que pose le magazine Science et Vie en partenariat avec RTL. Et son directeur de la rédaction, Mathieu Villiers, est avec nous. On va parler des différences qui existent, ou non d'ailleurs, en matière de santé. Dans votre magazine, vous listez 5 maladies où l'inégalité est réelle. On va peut-être parler de la dépression pour commencer. Elle touche plus les hommes ou les femmes? Deux fois plus de femmes. Comment ça s'explique?
Ça s'explique pas trop. On pense que c'est surtout une différence de diagnostic. C'est-à-dire que les femmes seraient peut-être plus enclines à la dépression, là où les hommes seraient plus dans l'agressivité. Et voilà, en tout cas, diagnostiquer dépressif, il y a trois fois plus de dépressifs que de dépressifs.
Ça veut dire que les hommes ne mettent pas forcément ce mot-là sur leurs symptômes, c'est ça aussi?
Apparemment, c'est un problème de diagnostic qui fait qu'on va moins vers cette pathologie-là, en déclaratif en tout cas.
Un autre exemple d'inégalité homme-femme face à la maladie d'Alzheimer, les femmes sont plus frappées que les hommes?
Oui, alors là, apparemment, ça s'explique tout bêtement par le fait que l'espérance de vie est plus grande, et comme c'est une maladie qui se déclare tard dans l'âge, il n'y aurait pas tellement de différence entre les hommes et les femmes.
D'accord, et donc c'est vraiment lié à ça?
Oui, parce qu'il y a près de 10 ans d'écart entre l'espérance de vie des dames et des messieurs, donc forcément, dans des maladies de dégénérescence, on voit des différences notables.
Et face à l'infarctus, les hommes et les femmes?
Alors, là c'est très intéressant, c'est-à-dire que, on a une médecine d'hommes, on a une médecine essentiellement pensée par des hommes, mise au point avec des hommes, pratiquée par des hommes, qui fait qu'on connaît moins les femmes dans les milieux médicaux. Et l'infarctus, par exemple, on connaît très 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 bien les signes précurseurs chez l'homme, mais les médecins généralistes ne connaissent pas les signes précurseurs chez les femmes, qui ne sont pas les mêmes.
Parce que moi, je vais vous dire, je ne sais pas, une douleur dans le bras gauche, par exemple, pour l'homme, j'imagine que c'est toujours vrai. Pour la femme, c'est quoi les signes précurseurs?
Non, c'est plutôt des nausées, des douleurs dans la mâchoire. C'est pas la même pathologie.
Ça n'a rien à voir quand même.
C'est assez différent.
Et du coup, quel impact ça a, cette méconnaissance
des... Ils ont chiffré la chose. Ça fait un quart d'heure de prise en charge supplémentaire pour les dames. Parce que le temps qu'on se rend compte de ça, et puis quand on arrive à l'hôpital, c'est encore 10 minutes de moins. Bref, on pense que les femmes sont prises en charge 25 minutes plus tard que les hommes en cas d'infarctus par déficit de connaissance sur les symptômes.
Surtout que c'est très important en cas d'infarctus, la rapidité de l'intervention des secours. Donc,
absolument.
Donc
absolument.
Ça a un impact important.
Il n'en reste pas moins que les hommes sont un peu plus frappés par les infarctus, mais c'est là plutôt lié à des problèmes d'hygiène, de tabacologie, et de choses comme ça, tabagisme.
On continue de lister comme ça un certain nombre de maladies. Évidemment, on pense au cancer. À part les cancers qui sont directement liés aux organes sexuels, est-ce qu'il y a des cancers plus masculins que d'autres?
Surtout des cancers de mode de vie,
de comportement,
sur lesquels les femmes rattrapent les hommes très vite, ce qui est très inquiétant d'ailleurs, parce que la propension à développer un cancer du poumon quand on est fumeuse est bien supérieure à celle de développer un cancer du poumon quand on est fumeur. Les femmes sont beaucoup plus sensibles à cela. Donc là, les projections sont assez inquiétantes. Mmh. Les femmes, peut-être demain, n'auront plus Alzheimer, elles non plus, si elles meurent plus tôt. Mais là, c'est sur le cancer colorectal, par exemple, qui est un cancer qui touche une prévalence très forte, on a le même problème que celui que je décrivais sur les infarctus, c'est-à-dire que les tests qui sont faits sont faits pour les messieurs. Et la zone où les dames développent des cancers colorectaux n'est pas exactement la même, et les appareils d'investigation de ça sont beaucoup plus pertinents et voient mieux les choses chez les messieurs que chez les dames. Ce qui nous a vraiment incroyablement surpris.
Est-ce qu'il y a d'autres maladies qui touchent plus les hommes, en dehors des organes sexuels?
Oui, alors il y a bien sûr les maladies qui sont liées à la différence de chromosomique, puisque les femmes ont deux chromosomes X et les hommes un X et un Y. Alors, sur les maladies récessives qui ne tiennent que sur un seul gène, genre l'hémophilie, la myopathie du chêne, des choses comme ça, si vous avez qu'un seul X et qu'il a des petits bugs, et ben c'est pas le deuxième X qui va le corriger. Du coup, toutes ces maladies-là, les maladies récessives, sont quasiment l'apanage des hommes. Donc on a des maladies génétiques comme ça. Par exemple, les hommes font plus d'infections que les femmes parce qu'ils sont moins bien protégés génétiquement. La tuberculose est essentiellement une maladie d'homme.
Vous dites que la santé est une affaire d'homme. Est-ce que c'est vrai aussi, j'imagine que oui, des laboratoires, des médicaments? Est-ce que les médicaments ne sont pas suffisamment pensés pour les femmes?
Alors ça, c'est une histoire, on rigole à parler des différences entre les messieurs et les dames, mais c'est une histoire véritablement extrêmement sérieuse qui nous a beaucoup surprises et qui est trop peu connue. C'est, en fait, on s'est rendu compte il y a une vingtaine d'années qu'au niveau de la cellule même, une cellule d'homme, une cellule de femme, ça ne marche pas pareil. Ça ne marche véritablement pas pareil. Celle de l'homme consomme plus de glucose, celle de la femme fabrique plus d'antioxydants. C'est très différent. La biologie intime des hommes et des femmes est différente. Or, les médicaments sont essentiellement faits pour les hommes. Ça pose quantité de problèmes. L'aspirine, par exemple, prévient l'infarctus chez les messieurs, mais prévient l'AVC chez les dames. On parlait hors antenne tout à l'heure de faut-il se vacciner sur la grippe. Une demi-dose suffirait pour les femmes, parce qu'elles réagissent beaucoup plus. Simplement, on leur met une dose complète parce qu'on ne veut pas s'embêter avec ça. Alors évidemment, si les milieux pharmaceutiques et la recherche fait deux populations, une de femmes et d'hommes, ça va devenir beaucoup plus onéreux. En tout cas, il y a une vraie injustice qui est faite aux femmes en matière de médicaments.
Et c'est à découvrir dans le Science et Vie, qui parle aussi, forcément, de sexualité. C'est dans un instant sur RTL.
Soyez fiers d'être curieux.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France. RTL.
Je suis un homme, je suis un homme. Quoi de plus naturel en somme?
Par exemple, une femme enrobée, elle se laisse aller. Un homme qui a du ventre, c'est un bon vivant.
Une femme avec toi.
Une femme qui aime le bon vin, elle boit. Un homme qui a bu, il a pissé dans le lavabo, on a rigolé.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Homme, femme, mode d'emploi, encore du boulot, c'est le thème de la curiosité. Ce soir, nous recevons Mathieu Villiers, directeur de la rédaction du magazine Science et Vie, qui publie 100 questions-réponses sur nos différences. C'est en partenariat avec RTL. On va parler sexualité maintenant, pour dire d'abord que le sexe, c'est bon pour la santé. C'est vrai pour les hommes et pour les femmes?
Ah oui, c'est bon pour tout le monde, oui.
Chouette.
Bon ben, très bien.
Voilà une bonne nouvelle.
Le sexe rajeunit même?
Alors, c'est bon pour l'apparence physique. Apparemment, les gens qui ont une activité sexuelle épanouie et régulière...
Ils ont une belle peau.
Ils feraient 10 ans de moins. Alors, bon, on ne va pas jouer à ça à la radio. Hein. On va pas voir. Mais plus sérieusement, sur le cancer du sein, par exemple, ça diminue de manière assez sensible l'occurrence du cancer du sein. Sur le cancer de la prostate, pour les messieurs aussi, il semblerait qu'une activité sexuelle régulière mette à l'abri d'un certain nombre de cancers.
Scientifique?
Alors sur la prostate, manifestement, il est important que la semence s'écoule assez régulièrement. Ouais. Voilà. Et pour ce qui concerne le cancer du sein, il y a une hormone qui s'appelle l'ocytocine, qui est une sorte d'hormone du plaisir, de l'attachement, qui jouera un rôle protecteur aussi. De la même manière, quand les dames allaitent, par exemple, elles se protègent aussi du cancer du sein de la même manière. Et puis ça fait faire un peu de sport, enfin apparemment... C'est bon pour tout le monde.
C'est bon pour le cœur aussi.
C'est bon pour le cœur.
Ah ben voilà, alors là, franchement, pratiquez, allez-y, vive le sexe. On ne peut pas vous donner meilleur conseil. Ouais. L'orgasme est différent selon le sexe, Mathieu Villiers. C'est d'abord une question de tempo.
Alors,
petite musique douce pour nous accompagner.
Avec ce tempo-là, on peut y arriver.
Un homme, est-ce qu'il aimerait une femme? Et si oui, pourquoi? En général, il répond pour savoir ce qu'est un orgasme féminin et réciproquement. Ouais. Donc c'est un grand mystère pour l'autre sexe, l'orgasme de l'autre. Ce qu'on peut faire, c'est quantifier tout ça et voir que finalement, il dure un peu plus longtemps chez la femme et qu'il met un peu plus de temps à advenir. Mais si on s'en remet à l'anatomie pure, ça semble quand même très proche. Hein. Tout ça parle afflux sanguin, corps calleux.
C'est moins romantique d'un seul coup.
On est véritablement sur des choses qui sont d'une même nature, manifestement.
On parle d'orgasme, mais ça se simule comment, un orgasme?
Ah, moi, je sais.
Ah bon? Vous savez?
Je sais parce que j'ai revu... Non, j'ai revu quand Harry rencontre Sally. Meg Ryan, écoutez.
Oui. Oh, mon Dieu. Oui, là, oui. Oui. Oh, oui. Oh, ah, ah. Oui. Oui. Oh, oui. Oui. Oui.
Mais vous faites tout ça, Meg Ryan.
Donnez-moi la même chose qu'elle.
j'adore. Vous vous souvenez de cette scène? À la fin, il y a une cliente dans le restaurant je veux qui vient d'entendre la simulation et qui dit « je veux la même chose qu'elle ». Alors bon, sauf que derrière tout ça, il y a du déclaratif, j'imagine. Les femmes qui disent n'atteindre jamais ou rarement l'orgasme, elles sont nombreuses.
Il semblerait qu'il y ait un tiers des femmes qui confessent, qui avouent.
C'est beaucoup quand même.
Oui, c'est beaucoup.
Chez les mâles, est-ce qu'un homme peut jouir sans ressentir de plaisir?
J'en sais rien du tout.
D'accord. Question
c'était
suivante.
C'était la colle du soir pour Mathieu. Ouais.
Alors là, je sais pas du tout, non.
Ah bah ça, vous savez peut-être. Est-ce que les femmes ont des érections?
Oui, ça fonctionne de la même manière.
Ah bah voilà.
Absolument.
C'est vrai.
Ça fonctionne exactement de la même manière. Le clitoris est un continent complètement inconnu il y a encore 10 ans. Voilà, les scientifiques n'avaient pas vu que c'est en tout point comparable au pénis.
Donc il se gonfle de sang, il se charge de sang.
Absolument, il se gonfle et il est ramifié par deux sortes de faisceaux qui remontent très profondément sur une dizaine de centimètres. C'est pas du tout juste ce petit bouton. Ça a des ramifications très profondes et ça fonctionne un peu de la même manière.
Sauf qu'il se remplit de sang. Et on parlait de tempo tout à l'heure. C'est pas.
Ça prend plus de temps.
Ça prend plus de temps
ça
chez la femme, c'est
temps,
ça.
Voilà.
D'accord, ben voilà, écoutez bien cette phrase, messieurs. le temps, c'est important. On va continuer
messieurs,
tiens,
mesdames,
avec deux, trois idées. Oui, ben, sauf que. Bon, voilà,
oui,
on
vous parlez pour vous, d'accord.
Voilà. Il paraît que les hommes s'endorment rapidement après l'amour, mais je ne sais pas d'où ça sort, ça, franchement.
Ah, bah, c'est l'expérience, hein. Que voulez-vous?
Bah, moi, j'y crois. Il y a beaucoup d'explications. C'est une idée reçue, ça. Et il y a beaucoup d'explications plus ou moins vaseuses qui sont avancées là-dessus. Je sais pas. Alors,
c'est peut-être aussi beaucoup de femmes qui le vivent. On dit
oui,
c'est une idée reçue.
Alors, les femmes, apparemment, sont prêtes à avoir un coït plus rapproché que les garçons, ce qui pourrait expliquer qu'elles se maintiennent en éveil peut-être un peu plus longtemps. Il y en a qui disent que finalement il y a peut-être une dépense énergétique et musculaire qui est supérieure chez l'homme.
L'homme est fatigué, il dort, oh le pauvre.
Bon, voilà. Alors après c'est vrai que l'orgasme en lui-même libère un certain nombre d'endorphines et de choses qui sont extrêmement relaxantes et qui peuvent contribuer. Alors si les femmes simulent, peut-être que c'est pour ça qu'elles s'endorment moins vite après.
Mais à propos des partages des tâches et à propos aussi de sexualité, est-ce qu'un homme pourrait être enceint?
Alors ça...
Ça, c'est un des dossiers passionnants de la
science
et vie. Ça,
c'est un truc terrible, ça.
Ouais.
En fait, oui, parce que l'année dernière, une équipe de médecins suédois a greffé un utérus de femme, sur une femme qui en était dépourvue, et l'enfant est né, et tout s'est bien passé. Et dans ces conditions-là, on leur a posé la question, mais on peut faire pareil qu'un homme. Alors ils ont été très surpris et ils ont été obligés de dire que oui, parce que rien ne s'y oppose. Au point qu'ils ont d'ailleurs créé une sorte de charte de bonne conduite qui jamais...
C'est ce que j'allais vous dire, à part l'éthique.
Voilà, à part l'éthique. Mais quand les choses sont faisables, c'est rare qu'on les fasse pas quand même.
Alors vous parliez de la Suède ?
Ouais.
Mais en France aussi, on peut
France,
se faire greffer un utérus.
Oui, alors il y a des autorisations qui sont données en France. Là, je crois qu'il y a une douzaine de greffes d'utérus qui sont prévues en 2016, donc des dons de femmes pour des femmes. Mais on peut parfaitement imaginer que dans l'abdomen de l'homme, on puisse faire une place pour greffer un utérus, et puis qu'avec un petit peu de traitement hormonal, évidemment, l'accouchement sera par césarienne, ce qui n'est pas un problème. Ça ouvre des perspectives un peu vertigineuses, tout ça.
Un petit peu effrayante, on est d'accord. Merci beaucoup Mathieu Vullier. Science et vie, questions-réponses. Le numéro est en kiosque, c'est le numéro du premier trimestre 2016. Il est passionnant, on a à peine posé, je sais pas, une vingtaine ou un quart des questions qui sont dans votre magazine.
Vous écoutez RTL.